Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Je commence tout d'abord par vous souhaiter une merveilleuse année 2023. À ceux qui sont en train de débarquer dans ce nouveau monde de la trisomie 21, je vous souhaite de l'apaisement. Et à ceux qui profitent déjà des éclaircies après la tempête, je vous souhaite toujours plus de belles découvertes aux côtés de votre enfant. Je vous souhaite de lui faire confiance, de constater tous ses progrès et de profiter des petits bonheurs quotidiens sans tout le temps penser à demain et à ce qu'il y a à améliorer. Aujourd'hui dans la Triférence, c'est Mariana qui est l'invitée de l'épisode 14 et sa façon de profiter de la vie est justement assez impressionnante, vous allez voir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son histoire extraordinaire par deux fois. Bonjour Mariana, comment vas-tu ?
Bonjour Raphaël, ça va très bien, merci de me contacter pour ce podcast.
Merci infiniment à toi surtout pour le temps que tu as bien voulu m'accorder pour nous raconter un peu ta vie à 1000 à l'heure. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, toi, et nous faire découvrir ton extraordinaire famille ?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mariana, comme tu as bien dit. Je suis espagnole. Actuellement, j'habite à Séville et je suis mariée. J'ai deux petits-enfants. Ma fille aînée, Mariana, qui a 6 ans, elle est porteuse de trisomie 21 et son petit frère, qui s'appelle Jaime, est aussi porteur de trisomie 21. Alors, c'est ça ce qui fait que notre famille soit un peu extraordinaire, on va dire.
Ah oui, on va dire ça. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse et de ce moment où vous avez su que Mariana, elle était porteuse de trisomie 21 ?
Oui, bien sûr. Alors, ma première grossesse, au début, elle est super, super bien. Tout allait bien, toutes les révisions et les échos étaient normales. Mais au moment de la semaine 20, pendant l'échographie morphologique, c'est là qu'on a découvert que Mariana avait un ventricule du cerveau un peu plus grand, des mesures standards. Et c'est ça ce qui a fait penser à la gynécologue qui était en train de faire l'échographie que Mariana pouvait être porteur d'une altération chromosomique. C'est vrai qu'à ce moment, la gynécologue n'a pas été vraiment très agréable au moment de transmettre cette nouvelle. On a eu hyper peur, on était vraiment un peu perdus dans tout ça parce qu'on ne savait pas vraiment dans quelle mesure cela pourrait vraiment affecter à la vie de notre bébé. Mais c'est vrai qu'une fois, on a parlé avec mon gynécologue habituel parce que cette dame-là, c'est une professionnelle qui était spécialisée dans le diagnostic prénatal. Il nous a rassurés en nous disant que normalement, les ventriculomégalies, je crois qu'on dit comme ça en français, je ne suis pas sûre. Le problème qu'il y avait non, dans Mariana en ce moment, du ventricule un peu plus grand, c'était quelque chose que normalement peut se corriger pendant la grossesse. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Après d'une grossesse un peu plus surveillée qu'habituellement, c'était dans la semaine 32, je crois, qu'on nous a dit, on nous a informé que finalement Mariana avait toutes les mesures standards, tout était bien. Et il n'y avait rien qui nous pouvait faire penser que Mariana était porteuse d'une altération chromosomique ou quoi que ce soit. Et on a passé la fin de la grossesse super bien, très tranquille. Et c'était drôle parce que la deuxième professionnelle spécialisée en diagnostic prénatal nous avait dit « Bon, si tout va bien au moment de l'accouchement, s'il vous plaît, envoyez-nous une photo pour voir votre petite fille et tout ça. » Et après de savoir que Mariana était porteuse de trisomie 21, parce qu'on l'a su après l'accouchement, je lui ai envoyé une photo avec un texte Plus tard, elle est devenue un peu virale parce que, bon, on l'a publiée. Mais c'est ce qui était un peu choquant pour les gens, c'est que je remercie à cette gynécologue qui n'a pas su voir, on va dire, que Mariana était porteuse de trisomie 21, parce que c'était la façon de passer, on va dire, la fin de la grossesse très tranquille. Et aussi,
D'accord.
c'était parce que vraiment, Mariana était bien, c'est-à-dire dans une échographie. C'est ce qu'on peut voir qui peut nous faire penser que le bébé est porteur d'une altération. C'est que peut-être il y a une cardiopathie ou un problème digestif ou des choses comme ça. Et Mariana était en pleine santé. Alors vraiment, c'était le bébé parfait pour nous, même s'il avait un chromosome de plus.
Oui, tout à fait, elle était en bonne santé. Et du coup, suite à la naissance, tu t'en es rendu compte tout de suite?
Oui, bon, c'était la pédiatre qui l'a assistée, qui a vu tout de suite que Mariana avait des signes de trisomie 21. Alors, c'est elle qui a dit à mon mari ses suspicions. Et en fait, comme on devait commencer à faire plein d'épreuves pour vérifier que vraiment Mariana était en pleine santé et que il fallait aussi faire le cariotype pour confirmer le diagnostic. C'était elle-même aussi qui est venue dans la chambre pour me dire qu'elle pensait que Mariana pourrait être porteuse de trisomie 21. Et ça a été vraiment une chance aussi que ça soit elle qui a été la pédiatre qui a assisté à Mariana juste après de sa naissance, parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment une sensibilité spéciale pour faire ce travail qui est si délicat, non? De dire aux parents d'annoncer un diagnostic de trisomie 21, surtout quand on n'est pas familiarisé avec cet handicap, et ça peut être vraiment un choc dur pour les parents. Et dans ce cas, ça a aidé énormément la façon où elle nous a transmis cette nouvelle, parce que, comme j'ai dit, sa sensibilité, la façon, les mots qu'elle a utilisés pour nous dire que Mariana pourrait être porteuse de trisomie 21 et que ça ne devait pas être quelque chose de mauvais, mais de différent, ça nous a vraiment tranquillisés.
Ah oui, c'est énorme.
Je trouve que la façon où on nous dit le diagnostic, ça peut changer complètement la façon où les parents peuvent assimiler cette nouvelle, non?
Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir vécu un choc?
Le choc, il était là. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve que tous les parents, bon, je ne sais pas, peut-être pas, mais normalement, tous les parents en souffrent ce choc, parce que c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Que quand tu imagines ta famille, je crois qu'il y a personne ou presque personne qui imagine que l'handicap peut faire partie, non, de notre jour à jour. Mais c'est vrai que même si on a été choqué pour cela, on l'a vécu d'une façon assez naturelle et pas dramatique surtout. Et je trouve que cela, ça a été d'un côté à cause de cette pédiatre, aussi à cause du support qu'on a eu du côté de nos familles. Et aussi, quelque chose qui est naturel en nous, c'est notre façon de vivre, non? Je veux dire, l'espoir qu'on a de dire, bon, c'est ça ce qu'on a, c'est ça notre vie, on va le prendre avec nous et on va vivre avec joie, parce que finalement, si tu veux, tu peux être malheureux. C'est quelque chose qui va dans l'esprit de chacun. Et même dans des moments de difficulté, on
Oui.
peut trouver le chemin pour être vraiment heureux. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est d'être bien informé. Nous, on connaissait pas du tout la trisomie 21 avant d'avoir nos enfants. Et au moment que tu prends de l'information, que tu cherches, que tu parles avec des personnes qui travaillent directement tous les jours avec des personnes qui sont porteuses de trisomie 21, avec des familles, avec des adultes avec trisomie 21, tu te rends compte que bon, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui limite un peu peut-être l'évolution de nos enfants pendant la vie, mais que ça va lui permettre aussi et surtout d'être heureux. Et je crois que pour les parents, c'est ça le plus important, non?
Et justement, est-ce que tu peux nous parler donc des premières années de ta fille?
Oui, alors, ça a été, c'est vrai que Pendant le premier mois, moi, je suis restée à Madrid chez mes parents et juste après, on devait déménager dans une nouvelle ville. Pour nous, on n'avait pas de famille là-bas, on n'avait pas d'amis. Il y a eu un moment où je me suis rencontrée comme si j'étais une petite fille qui voulait pas se séparer de sa maman. Et j'avais vraiment peur à devoir faire face à la maternité toute seule, tu vois.
Ah
C'est
oui.
oui, parce qu'en plus, c'est vrai que je passais toute ma vie entourée des bébés parce que moi, je viens d'une très grande famille. Je suis la petite de 8 frères et sœurs. Ma sœur est née à 20 ans de plus que moi, alors quand moi j'avais 7 ans, ma première nièce est née. Alors j'ai été toujours, tu vois, avec des enfants autour de moi. J'ai eu toujours des bébés chez moi. Alors c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'habituel. Et surtout, j'avais très très envie, j'avais une grande vocation d'être maman. Je trouvais que cela, ça allait être tellement facile pour moi. Parce que c'était quelque chose de si naturel que le moment où je me suis rencontrée, que j'avais peur à ça, faire face à la maternité toute seule, je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Mais mon mari m'a encouragée, m'a dit, Maria, allez, on doit partir chez nous. Et j'ai vu que ça changeait pas autant. Finalement, c'est vrai qu'avec un bébé qui naît avec un handicap, non, on a déjà des obligations, des devoirs, il faut faire les stimulations. Il faut aller chez plusieurs médecins pour vérifier que tout va bien, tout ça. Mais après ça, tu te rends compte qu'un bébé, c'est un bébé. Un bébé doit dormir, doit manger, a besoin de sa maman, de son papa. Et je me suis rendu compte qu'avec mes copines qui étaient au même moment de maternité que moi, ce n'était pas si différent que ça. Alors finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et surtout parce que Marina aussi, ça a été un bébé. Elle a été un bébé facile. Elle n'avait pas de problème de santé. C'est pas un bébé qui a tombé beaucoup de fois malade. Avec Jaime, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est vrai que l'expérience aide énormément.
Eh oui. Et justement, quand est-ce que vous vous êtes senti prêt à avoir ce deuxième enfant?
Alors nous, c'est vrai qu'on avait très envie d'avoir une famille nombreuse. Quand je me suis mariée, je pensais, ah, peut-être 4, 5 enfants. Et non, je ne dis pas la même chose, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on savait qu'un frère ou une sœur pour Mariana, ça allait être une super bonne stimulation. Ça allait aussi compléter ce projet de famille qu'on voulait avoir. Et je crois que quand Mariana a eu 1 an, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et justement, entre Mariana et Jaime, il y a juste 23 mois de différence. Et c'est vrai que ça a été une énorme surprise parce que pendant la grossesse de Jaime, on n'a rien su. Il n'y avait pas du tout rien qu'il nous fallait penser que Jaime pourrait être aussi porteur de trisomie 21. Et cette image qu'on savait créer un peu du grand support, du grand défendeur qu'allait être Jaime pour Mariana, ça nous a changé complètement quand Jaime est né.
Et oui, parce qu'en fait, vous n'aviez pas fait des tests génétiques pendant cette deuxième grossesse pour éventuellement dépister une anomalie chromosomique.
Non, parce que finalement, le type de trisomie de Mariana et aussi de Jaime, c'est trisomie libre. Alors, comme c'était l'hasard, on va dire, nous, on était encore jeunes, crois que je peux dire, j'avais 30 ans quand je suis tombée enceinte de Jaime. En plus, surtout les échographies, la translucence, on dit comment, translucence nucale?
La clarté nucale.
Merci. La clarté nucale, toutes les mesures du nez. Du fémur, tout ça était dans les paramètres standards et il n'y avait rien, vraiment rien qui nous pouvait faire penser que Jaime pourrait aussi être porteur de trisomie 21. C'est drôle parce que ma sœur, après sa naissance, elle m'a demandé, est-ce que tu n'as jamais pensé à ça? Parce que moi, je l'avais pensé. C'est drôle parce que j'avais 28 ans quand j'ai eu Mariana, 30 ans quand j'ai eu Jaime. Tout allait bien. Alors, on gagne la loto qu'une fois dans la vie. C'est pas possible non, de faire ça deux fois. Eh bien, oui, c'est possible. Et c'est surprenant, surtout.
Et oui, et du coup, comment vous avez vécu cette deuxième naissance et surtout cette deuxième annonce?
Alors, il faut dire que moi, je suis accouchée toute seule parce que mon
D'accord.
mari était à Dakar à cause de son travail. Il est militaire et il était en mission en ce moment. Et alors ça, ça a été un peu dur parce que c'est moi qui a vu que Jaime était aussi porteur de trisomie 21. C'est moi qui a prévenu les pédiatres et tout ça. Alors là, j'ai eu un moment c'est clair et net. il est aussi porteur de trisomie 21. Et juste après ça, j'ai passé une phase un peu de négation parce que je pensais c'est pas possible, deux enfants porteurs de trisomie 21, que tous les deux soient en si bonne santé. Je me disais, si Jaime est aussi porteur de trisomie 21, c'est sûr qu'il va avoir une cardiopathie ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur, j'avais très peur, pourrait avoir quelque chose de mauvais, non? Mais c'est vrai que tout de suite, ils nous ont dit que non, que Rem était parfaitement. Et c'est ce qui est l'assimilation de la trisomie 21 en soins, du diagnostic, ça a été plus facile parce que finalement, on venait de passer presque 2 ans avec la meilleure chose qu'on avait faite dans la vie, c'était Mariana. On était hyper heureux avec elle. Elle nous avait que porté du bonheur. Alors, je me suis dit, si avec Mariana on a vécu que de bonnes choses, pourquoi pas avec Jaime aussi, non? C'est vrai que faut être réaliste. On savait que cela allait nous faire travailler plus, l'effort serait double, non? J'étais avec mes parents dans la chambre. Ma mère, la pauvre, elle n'arrivait pas. Je crois qu'elle n'arrivait pas même à respirer, elle était vraiment elle paniquait. Et je lui disais ça, je disais, mais maman, pense à Mariana, pense à tout ce qu'il nous a apporté, pense à tout ce qu'on a appris grâce à elle. Alors pourquoi avec Jaime ça va être différent? Pourquoi alors, maintenant Jaime ça va pas être une bonne nouvelle, non? Sa trisomie 21.
Oui.
Et vraiment, je pensais comme ça. Hein. C'est pas quelque chose que je dis maintenant. Une fois, tous les deux ont grandi. Non, au moment qu'on l'a su et qu'on a pensé à ça, à Mariana, je me disais, s'ils sont là, c'est parce qu'on va être capable de bien les élever et bien faire notre mission comme parents avec eux deux.
Tout à fait. Et alors justement, avoir deux chromosomes de plus à la maison, comment tu le vis aujourd'hui?
Il y a quelques jours, je répondis à ça justement, et je disais, je pense pas à ça. En fait, moi, quand je vois mes enfants, je vois pas ces chromosomes de plus. Alors, c'est très naturel, on a tellement normalisé que Mariana ne parle pas fluidement comme ses copains de classe ou que Jaime n'a pas appris à marcher si vite comme des enfants de son âge que vraiment on oublie la trisomie chez nous. On est habitué à ça, alors on a complètement normalisé la trisomie 21. C'est vrai que quand même, comme j'ai dit au début, non, on a nos obligations, on a nos devoirs, on doit amener les enfants 3 fois par semaine chacun à ses thérapies, les révisions. On visite tous les spécialistes pour vérifier que tout va bien. Mais ouais, je ne pense pas à la trisomie, je ne pense pas beaucoup au chromosome des plus, sauf parce que je crois que vraiment on a aussi le devoir de montrer au monde que c'est pas quelque chose de mauvais, la trisomie 21. Alors c'est là quand je me passe toutes mes journées à crier au monde, écoutez, la trisomie 21 est superbe, n'ayez pas peur. Et c'est ça ce qui me fait juste reconfirmer tous les jours, non, que mes enfants vraiment sont porteurs de trisomie 21.
Tu disais que, y a beaucoup d'accompagnement thérapeutique et justement en Espagne, à quoi ça ressemble toutes les séances où vous emmenez les deux enfants?
Alors, jusqu'à l'âge des 6 ans, en Espagne, c'est ce qu'on appelle programme d'attention temprana. Je ne sais pas comment on dit en français, mais jusqu'à cet âge-là, normalement, les thérapies sont gratuites. C'est pris en charge par les communautés autonomes. Alors, par exemple, comme Mariana a déjà 6 ans, elle est hors de ce programme, mais Jaime, il reçoit 3 thérapies par semaine, une de orthophonie, une autre de kiné, et une troisième avec une psychologue qui fait un peu de tout, en fait. Par exemple, le travail de l'école, le refait dans la thérapie pour aider que à l'école soit tout plus simple pour lui, un peu de travail de motricité fine, des trucs comme ça. Et d'un autre côté, c'est vrai que nous, du côté privé, on fait aussi une autre séance d'orthophonie avec Jaime. Avec Mariana, on fait des séances d'orthophonie. Et comme j'expliquais pour Jaime, c'est un peu pour tout ce qu'elle apprend ou qu'elle essaye d'apprendre à l'école soit plus.
Renforcé.
C'est ça, un renforcement pédagogique.
Et pour Mariana, c'est payant ou c'est toujours gratuit?
Non, pour Mariana, c'est payant. C'est payant parce que comme elle a 6 ans déjà, c'est privé.
D'accord.
Mais on a des aides pour les enfants qui sont en école ordinaire. Il y a des aides pour payer toutes ces thérapies qu'on doit faire une fois. Ils n'ont pas le droit à entrer dans le programme d'attention temprana.
Et justement, est-ce que donc ils vont tous les deux dans une école ordinaire?
Oui, tous les deux, dans la même école, avec des autres enfants de son âge. Bon, Mariana, c'est la première année qui vient de redoubler. Cette année-là, elle devait passer à, c'est quoi, c'est CP?
Oui, c'est ça, CP.
Et elle est restée une année, encore une année, en maternelle.
Maternelle.
Maternelle jusqu'à 6 ans en France?
Oui, enfin, à 6 ans, on passe au CP.
D'accord. Il est resté encore une année pour justement renforcer tout ce qu'elle a appris l'année dernière et comme ça commencer un peu la lecture avec tous les apprentissages un peu plus fermes, on va dire. Je suis certaine que ça a été la meilleure des options qu'on pouvait faire avec elle. Et comme ça, l'année prochaine, elle sera plus mature pour commencer CP. Et Jaime, il est toujours avec des enfants de son âge. Il est en deuxième année à l'école. Et lui, c'est vrai que c'est un enfant qui a plus de facilité pour parler. Alors, ça aide énormément à l'école. Pour Mariana, c'est un peu plus compliqué. Parce que finalement, si tu parles pas fluidement, la lecture c'est plus difficile, l'écriture aussi et tout ça. Mais pour Jaime, c'est plus facile pour lui.
Super. Et du coup, ça se passe bien quand même aussi pour Mariana, même si c'est un peu plus difficile, elle est contente.
Elle est super contente. C'est vrai que on est dans une école où ils sont hyper sensibilisés avec ça. Il y a plusieurs enfants avec des handicaps différents. Alors, c'est pour ça qu'on a aussi décidé de mettre aux enfants dans cette école-là. Parce que quand tu vois ça, quand tu vois que vraiment c'est toute une école qui est pas juste prête, mais aussi qui a l'envie d'accompagner aux enfants qui ont plus de difficultés, non? Ça dit beaucoup du côté de l'école. Et Mariana a une prof qui est magnifique, a des copains qui sont super sympas, qui se rendent compte que Mariana a peut-être plus de difficultés pour quelque chose, alors qu'ils vont l'aider pour que ça soit plus facile pour elle. Et c'est vraiment toute l'école qui prend partie de cette aide que mes enfants ont besoin. Alors c'est super parce que vraiment on voit que l'inclusion peut partir de l'école, non? C'est une façon aussi de d'éduquer, on va dire. Et
Oui.
finalement, quand les enfants sont habitués, dès qu'ils sont petits, à voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas le même rythme d'évolution, qui grandissent d'une façon différente, mais qu'avec un peu d'aide et un peu plus de travail peuvent faire partie de l'école et de la société. Je pense que le lendemain, ce sera des adultes qui vont avoir plus conscience de ce que l'inclusion signifie, non?
Oui, tout à fait. Ils vont être plus sensibles au handicap et à l'inclusion. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'inclusion des enfants et des adultes porteurs de trisomie 21 de manière générale en Espagne?
Alors moi, je trouve qu'on est dans un moment d'évolution très bonne dans ce domaine. On voit de plus en plus des adultes qui sont porteurs de trisomie 21, qui travaillent dans une entreprise normale, qui font des études supérieures, qui font des formations professionnelles, et aussi d'autres que peut-être ils ne sont pas si capables d'arriver à tout ça, non? Mais qui ont des programmes d'études adaptés à ces capacités. Alors, je crois qu'on a un bon chemin à suivre et il faut toujours travailler en ça parce que c'est pas fini et c'est pas si évident que ça. Dans les écoles avec des enfants, c'est un peu pareil. Alors, je trouve que l'idée est très bonne, qu'en Espagne, on a vraiment envie de que l'inclusion soit de plus en plus. Comment dire, que ça soit qu'elle soit meilleure, non? De plus en plus que vraiment les écoles
Oui.
soient capables de recevoir des enfants qui ont des besoins spéciaux éducatifs. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de professionnels qui soient capables d'adapter les programmes éducatifs des écoles aux enfants qui ont des besoins spéciaux. Je crois qu'on a besoin encore plus de, comment dire, des professionnels et surtout aussi des recursos,
Des
comment on
moyens.
dit ça, des moyens pour que vraiment l'inclusion soit réelle, parce que c'est vrai que même si l'envie et l'espoir est bonne, si on n'a pas des moyens qui nous aident à que les enfants qui sont dans les écoles ordinaires peuvent apprendre vraiment, ça sert à rien. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas juste que les enfants des classes de Mariana et Jaime apprennent qu'il y a des personnes différentes, qui ont des besoins différents et tout ça. Je veux aussi que mes enfants dans l'école peuvent apprendre à lire, à écrire, en sachant qu'ils ont des limites, non? Je veux que vraiment les professionnels soient prêts à, comment dire, ah, je n'arrive
À
pas.
faire tout ce qu'ils peuvent pour les tirer vers le haut.
Oui, justement, merci. Et c'est vrai qu'en Espagne, il y a eu un peu un débat à cause des écoles spéciales ou pas et tout ça. Moi, je trouve qu'il y a quelques handicaps qui sont vraiment compliqués, non? Et que peut-être ils ont besoin d'une école spéciale. Qu'il y a des handicaps que je crois que vraiment ils ont besoin qu'il existe des écoles spéciales. Mais dans le cas précis de la trisomie 21, je crois que c'est des personnes qui ont des capacités pour être parfaitement dans une école ordinaire.
Alors maintenant, on va parler de ton livre, Mariana. Donc, tu viens de sortir un livre qui
Oui.
s'appelle Dos por veinte uno, La felicidad no entiende de cromosomas. J'ai bien prononcé, c'est ça? Est-ce que tu peux nous traduire le titre, s'il te plaît, et nous dire un peu ce que ça retrace comme récit?
Alors, je vais essayer. Alors, je crois que ça peut être un peu 2 fois 21, le bonheur ne dépend pas du nombre de chromosomes. Et alors, 2 fois 21, c'est parce que 21, c'est la trisomie qui porte mes deux enfants. Alors, 2 fois, parce que j'ai deux enfants. Et le reste du titre, bah, c'est juste ça. Je crois vraiment qu'avoir deux enfants porteurs d'un chromosome de plus n'affecte pas du tout au bonheur. Au contraire, pour moi, le vrai bonheur est arrivé quand j'ai eu mes deux enfants. Alors, dans ce livre, j'essaye un peu de montrer au monde comment, c'est ce que je dis dans le titre, est vrai.
Et lorsqu'on te croise dans la rue ou à l'école, accompagné non pas d'un, mais de deux enfants porteurs de trisomie 21, comment tu analyses le regard des autres? Est-ce qu'il est bienveillant?
Oui, alors on a eu un peu de tout type de réaction. Bon, Jaime était petit, pas quand il était un bébé tout petit, parce que là, il était dans la poussette et presque on le voyait pas. Mais quand il est un peu grandi, c'était drôle parce que je voyais que peut-être mon mari allait avec Mariana de la main dans la rue. Et derrière, j'étais moi avec Jaime. Et alors, d'abord, les personnes regardaient Mariana, c'était « Oh, quelle mignonne, tout ça !» Et plus tard, on voyait Jaime juste derrière et on se rendait compte qu'on était tous une famille. Alors là, le regard changeait complètement. C'était un regard de surprise. Je peux le comprendre, c'est normal, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Notre famille, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Deux personnes jeunes comme nous, avec deux enfants, avec une trisomie, non, c'est quelque chose de surprenant. C'est grâce à ça que j'ai décidé finalement d'ouvrir mon profil d'Instagram au public, parce que je me suis dit, ah ben, c'est surprenant, mais c'est aussi attirant. Les gens étaient curieux de savoir comment est-ce que ça se fait que un couple jeune a deux enfants porteurs de trisomie 21. Alors, cette idée d'Instagram, ça c'est arrivé avec grâce au regard des gens qui étaient curieux de savoir un peu plus.
D'accord. Et justement, sur ton compte Instagram, tu parles aussi en français. Pourquoi écrire en français aussi, en fait?
Bon, moi, je parle français parce que quand j'étais petite, j'ai habité 5 ans à Paris et j'ai toujours été très attirée par la France. Des années plus tard, j'ai vécu en Aix-en-Provence, j'ai plein d'amis français et belges. Alors, comme c'était un peu, au début, c'était un peu comme un journal, j'avais des amis français qui me disaient, Marina, c'est dommage, tu pourrais écrire aussi en français, comme ça, nous, on comprend ce que tu vis avec les enfants et tu peux nous faire partie de votre vie. Alors, c'est un peu ça comme ça a commencé. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en France aussi, en Instagram, il y a une grande communauté qui parle de la crise 2021. C'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi.
Oui.
Et j'ai partagé quelques mots avec toi, avec Carole, la maman de l'extraordinaire Marcel. Je suis aussi d'autres comptes et je me suis dit, bah, pourquoi pas, comme ça aussi, on peut voir les différences qu'il y a peut-être en France, en Espagne, et ça peut peut-être nous aider ou nous inspirer, non, vers quel côté on doit aller. Dans la lutte, par exemple, pour l'inclusion, des trucs comme ça. Et j'adore aussi, en plus parce que j'adore le français, alors j'aime beaucoup le parler, l'écrire et tout ça. Et aussi, j'ai su qu'en France, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué qu'en Espagne, comment dire, l'inclusion des personnes porteuses de trisomie 21, si je ne me trompe pas. Et alors je me suis dit peut-être qu'il y aura des gens à travers de mon compte peuvent se rendre compte que les personnes trisomiques ont aussi le même droit de faire partie de la société.
Je pense en effet qu'on a plus de progrès à faire en France, même si, tout comme en Espagne, on avance jour après jour, initiative après initiative. Mais en effet, je pense que c'est moins considéré comme normal d'être différent. Et il y a encore beaucoup de peur en France.
Ouais.
Est-ce que certains jours, tu penses à la vie que tu aurais pu avoir sans la trisomie 21?
Non, j'ai jamais pensé à ça. C'est drôle parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Et si mes enfants n'auraient pas été porteurs de trisomie 21? Ben non, j'ai jamais pensé parce que c'est pas ma réalité. J'adore mes enfants comme ils sont. Je ne changerai pas comment dire, un pelo de su cabeza.
Je ne changerai pas un cheveu de leur tête.
Et vraiment, je trouve que ma vie, elle est parfaite comme elle est. Parce qu'il n'y a pas de vie parfaite, je veux dire, mais la mienne, avec ses moments durs, compliqués, différents, avec tout ça, avec les moments de lutte, même avec tout ça, elle est parfaite et je l'adore comme il est. Alors non, j'ai jamais pensé à ça. Vraiment la façon d'être heureux et de profiter de la vie, non? La vie est très belle pour la vivre chaque jour avec un bon esprit et pas avec des pensées qui regrettent des choses qui vont jamais arriver.
Tout à fait. Et justement, d'ailleurs, grâce à la trisomie 21, il y a beaucoup de portes finalement professionnelles et personnelles qui t'ont été ouvertes, n'est-ce pas?
Complètement. Complètement, c'était grâce à mes enfants que j'ai décidé de faire le profil d'Instagram public. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à écrire, à faire des collaborations avec de différentes magazines en parlant de l'handicap, en parlant de la trisomie 21. C'est grâce à ça aussi que des différentes marques de mode ont découvert mes enfants et leur beauté pour faire différentes campagnes de mode. C'est grâce à ça aussi qu'on a découvert mon histoire et on m'a proposé d'écrire le livre. Alors c'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai découvert de différentes vocations professionnelles. J'ai fait aussi beaucoup de conférences dans des écoles, dans des universités, pour faire conscience de l'importance de l'inclusion. Alors vraiment, c'est grâce à eux que j'ai ouvert des portes professionnelles que j'avais jamais imaginées.
C'est assez incroyable, en effet.
Complètement.
Et être maman donc de Mariana et Jaime, ça t'a appris quoi sur la vie, sur toi-même?
Alors, je considère que j'ai été toujours une personne assez, en espagnol, je dis disfrutona, non? Alors, c'est-à-dire une
Qui
personne qui a,
profite.
ouais, qui profite beaucoup de la vie. Mais c'est vrai que grâce à eux, j'ai appris à profiter vraiment des petits moments qui font que la vie soit si belle chaque jour. Je me suis rendu compte que vraiment la beauté est partout. Ils m'ont montré à vivre vraiment avec un esprit gai. Et ça, c'est incroyable. Alors, voir comment tous les jours tes enfants se lèvent chaque matin et en te faisant un bisou comme si ça faisait des années qu'ils ne te voient pas, c'est incroyable. Et ça, vraiment, c'est eux qui... Je veux dire, peut-être qu'il y a d'autres enfants qui font la même chose, mais je trouve que les personnes avec trisomie 21, ils ont une sensibilité spéciale pour tout ça et ils sont capables de sentir quand est-ce qu'il faut faire vivre tous les jours avec deux personnes qui sont capables de faire ça. C'est vraiment génial. Ils m'ont montré vraiment le vrai valeur de la vie. Et moi, j'ai toujours défendu la vie en général, mais avec eux, je me suis rendu compte que vraiment, la vie de toutes les personnes est aussi digne que celle de n'importe qui. Et c'est un message que j'aimerais vraiment qu'il arrive à tout le monde parce que je crois qu'aujourd'hui, je veux dire qu'il manque beaucoup de valeurs autour de ça, non? De la vie, de la dignité. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important.
Et quand tu penses à l'avenir de tes enfants, tu espères quoi pour eux?
Alors, j'adorerais être capable de... Non, pas d'être capable, moi, mais eux, de que le lendemain peuvent être autonomes et indépendants. Ça, j'adorerais. Mais c'est vrai que je suis aussi consciente de que ce n'est pas le plus important dans la vie. C'est ce que j'espère vraiment de tout cœur, c'est qu'ils vont être heureux toute la vie. N'importe où ils arrivent, à niveau éducation, à niveau professionnel, mais s'ils sont capables de vivre tous les jours en se disant à eux-mêmes, je suis heureux, alors là, vraiment, je crois que mon travail est super bien fait. Mais tous les jours, c'est vrai qu'on s'occupe un peu pour essayer de que chaque jour qui passe soit tous les deux un peu plus autonomes, un peu plus indépendants. Et comme ça, bah, le lendemain, auront les outils pour faire ce que vraiment peuvent avoir envie. Mais c'est plutôt c'est pas une préoccupation en soi, c'est plutôt une manière de vivre chaque jour, non? En se disant, on va faire ça maintenant parce que peut-être demain, ça pourra les aider à faire quelque chose d'autre. Mais pas en se disant, mais si demain, ils n'arrivent pas à faire ça. Non.
Oui.
J'ai appris à pas me préoccuper beaucoup. Et c'est ça qu'on apprend avec les années. Hein. Quand ils sont tout petits, des bébés, des nouveau-nés, je crois qu'on pense beaucoup plus au lendemain qu'à fur et à mesure qu'ils grandissent. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Et je connais plusieurs personnes que ça a été pareil. Oui, parce que quand ils naissent, tu connais rien, tu as peur de tout, comment ça va marcher, comment il va grandir, comment ça va se passer à l'école, tout ça. C'est toutes des préoccupations. Et le lendemain, et le jour où je ne serai plus là, et tout ça. Tu commences à faire plein de... En plus, tu imagines, tout c'est ce qui est le pire. Et au moment qu'ils commencent à grandir, que tu commences ta routine, tu commences à travailler avec eux, ces thérapies, et tu commences à voir que vraiment l'évolution, elle est là. Et tu vois qu'ils grandissent, qu'ils arrivent à marcher à quatre pattes, et après, il prend tout seul sa fourchette, et tu vois qu'il commence à manger tout seul. Tu vois que vraiment, il y a des résultats à tout ce travail, et tu dis, ah ben, c'est un projet, ça, c'est vraiment un projet, et ça va petit à petit, mais comme tout dans la vie, avec un enfant qui n'est pas porteur de trisomie 21, c'est pareil, mais on ne le pense pas. Alors oui, sois tranquille parce que tu verras qu'un jour, tu vas pas te préoccuper autant. On est des mamans, hein, la préoccupation va être là toute la vie, mais pas autant à cause de la trisomie 21.
Oui, on est préoccupé parce qu'on a envie qu'ils soient heureux et le plus
Ouais.
autonome possible, mais en fait, c'est pareil pour tous nos enfants, quoi. C'est, ouais. Pour finir, est-ce que tu souhaiterais faire passer un message à ceux qui nous écoutent?
D'abord, je dirais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur à la différence. Je trouve que la différence enrichit et il faut donner la chance aux personnes qui sont porteuses de trisomie 21 à vraiment nous montrer qu'ils ont beaucoup, beaucoup à apporter au monde et à la société en général. Et surtout, s'il y a des mamans qui sont enceintes, ils viennent de recevoir un diagnostic de trisomie 21. J'aimerais leur dire que même s'ils sont en train de passer un choc et c'est pas ce qu'elles attendaient, il faut pas qu'elles oublient que cet enfant qui est dans son ventre est le même qui était là avant de recevoir ce diagnostic. Il n'a pas changé, même si on ignorait qu'il était porteur de trisomie 21, non, mais cette joie qu'elles ont sentie quand elles ont su qu'elles étaient enceintes, faut la maintenir parce que vraiment cet enfant va venir au monde pour leur donner que du bonheur. Alors qu'elles soient tranquilles et qu'elles vont découvrir un nouveau monde qui est vraiment magnifique.
C'est ça, c'est un nouveau monde en fait, tout à fait. Merci du fond du cœur, Mariana, pour cet échange. C'est si inspirant de t'écouter parler de l'arrivée de tes enfants et de ce qu'ils t'apportent au quotidien. C'est vrai que ça paraît vraiment une leçon de vie, quoi. Merci aussi pour ton implication sur les réseaux sociaux, pour faire connaître ce qu'est vraiment la vie avec la trisomie 21, x2 chez toi.
Merci à toi, Raphaël. Ça a été vraiment un plaisir d'être là avec toi.
Au revoir!
Au revoir, merci.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas